Bonjour à tous. On va commencer, on va prier, on va dire un mot de prière et commencer. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour le privilège que nous avons d'être ensemble réunis pour t'élever, pour t'adorer. Nous sommes reconnaissants de ce que, dans ta grâce, un jour, tu es venu sur la terre et tu as pris notre place, la place de la condamnation que nous méritions. Et Seigneur, par ta mort, nous avons la vie. Et Seigneur, ce matin, c'est confiant de ce que tu as fait de nous, tes servantes et tes serviteurs, que nous venons devant ton trône de grâce et te demander ta présence, implorer ta présence au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous avons cette conviction que tu es parmi nous. Seigneur, viens nous instruire par ta parole, viens nous enseigner, viens, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, tes ordonnances, afin que, Seigneur, en serrant ta parole dans nos cœurs, que, Seigneur, nous puissions marcher, Seigneur, en conformité de vie avec toi, que nous puissions marcher, Seigneur, dans tes voies, jour après jour. Seigneur, que ton nom soit béni. Oui, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité en Jésus-Christ. Amen. Bonjour, donc on continue le survol aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les copies pour les grandes lignes, en tout cas les grandes lignes qu'on va aborder aujourd'hui, donc je crois qu'il y en a encore derrière. Et j'aimerais qu'on commence ce matin par la lecture d'un texte dans le deuxième livre des Rois. Donc 2 Rois 6, 8 à 23. Deux rois, donc deuxième livre des rois au chapitre 6. On va lire du verset 8 au verset 23. Là, il est écrit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon cas sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez, repérez où il est, et je le ferai capturer. » On vint lui dire, « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferions-nous ? » Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Veille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Ils les conduisirent à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, « Faut-il les tuer, mon père ?» Élisée répondit, « tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée, à ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Donc j'ai voulu commencer l'étude ce matin par ce texte. Ce texte, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le lire, on voit toute la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de la scène qui nous est décrite. Et aujourd'hui, on va parler des anges et de Satan. Et ce texte fait vraiment une belle référence à certains aspects qu'on va regarder ensemble ce matin. On voit qu'on est entouré des réalités que nous ne percevons pas avec nos sens physiques. On est entouré de réalités qui certainement dépassent notre compréhension, notre entendement. Et quand on parle des anges et quand on parle de Satan, et on est vraiment dans ce degré de réalité où nous parlons des êtres, nous parlons d'éléments que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens physiques. Mais cela ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas. Et la réaction du serviteur d'Élisée, qui était cerné par une grande troupe armée et qui se demandait comment on allait s'en sortir dans cette situation, alors qu'Élisée avait eu le privilège que Dieu ouvre ses yeux et qu'il voit cette réalité qui n'était pas perceptible aux autres, a prié le Seigneur en demandant « Seigneur, montre à mon serviteur cette réalité spirituelle qui nous entoure et qui me donne toute cette confiance-là. » Et effectivement, le Seigneur l'a fait et le serviteur a enfin vu donc ces chars de feu, donc probablement l'armée de l'Éternel qui était descendue pour défendre le prophète et défendre Israël. Donc c'est un peu de ces réalités qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la leçon aujourd'hui est découpée en quatre parties. On va voir les anges, qui sont-ils. Ensuite, on va parler de la place et du rôle des anges dans le plan de Dieu. La troisième partie va porter sur les démons, qui sont-ils. On va voir que ce sont d'autres anges, mais un peu particuliers. On va voir qu'est-ce qui fait leur particularité. Et enfin, on va parler des activités de Satan et de ses démons. Donc, la première question à laquelle on voudrait répondre dans la première partie, c'est les anges, qui sont-ils? C'est quoi cette réalité-là? Et voilà une définition qu'on donne généralement. Les anges sont des créatures célestes dépendantes du Dieu unique. Ils sont un peu inférieurs à l'homme en force et en connaissance et en intelligence. Donc, c'est ça en fait, si on parle des anges, ce sont des créatures. Ils ne sont pas Dieu. Les anges, ce n'est pas Dieu. Donc, on verra plus loin. Une des raisons pour laquelle on ne peut pas adorer les anges, parce que les anges ne sont pas Dieu, ce sont des créatures au même titre que les hommes, au même titre que toutes les autres créatures de Dieu. Ils sont dans la description que la parole de Dieu donne des anges, ils sont de peu supérieurs aux hommes en force, en puissance. On va voir tout ça en détail. Donc dans la première partie, je vais aborder donc, quatre points dans la première partie. Les créatures, on va parler un peu plus, on va voir les textes qui nous décrivent les anges comme étant des créatures spirituelles, différents types de créatures spirituelles, donc la Bible présente différents types de créatures spirituelles. On va parler d'une certaine hiérarchie qu'il y a parmi le monde angélique et on va parler de quelques caractéristiques aussi des anges. Donc, dans le premier point, parlons regardons un peu quelques textes qui décrivent ces créatures, les anges. La Bible dit qu'ils sont créés par Dieu et dans la Bible, on voit d'autres textes qui nous parlent des anges. Il y a d'autres textes qui sont cités, on parle des saints. Donc parfois, le mot saint n'est pas utilisé pour les chrétiens, mais il est utilisé quand on lit par exemple le livre de Job, on dit que Dieu était rassemblé avec les saints, donc, ou avec les enfants de Dieu. Donc des fois aussi, on utilise les fils de Dieu. Donc des fois, on utilise donc dans Job 6 cette expression, Job 1, 6, les fils de Dieu étaient rassemblés avec Dieu et Satan s'est présenté au milieu d'eux. Donc, les anges sont des créatures de Dieu et on trouve d'autres noms dans la Bible qui désignent les anges. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que la Bible dit que les anges sont extraordinaires et fascinants. La description qu'on donne des anges peut fasciner. D'ailleurs, le texte qu'on vient de lire dans le livre des Rois, on parle des chars de feu. Donc, ce que le serviteur d'Élisée voyait, c'était des chars de feu. Donc, ils peuvent prendre des formes assez fascinantes. Ils sont doués d'un sens moral. Et ça, c'est très important parce que cela va déterminer la suite de ce qu'on va dire tout à l'heure. Les anges sont doués d'un sens moral. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de choisir. Ils ne sont pas contraints d'obéir à Dieu s'ils ne décident pas d'obéir à Dieu. Ils ont un libre arbitre. Donc, ils ont la capacité de choisir. De Pierre, de le verset 4 dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement. » Donc, on voit clairement que Dieu a prononcé un jugement sur les anges qui avaient la liberté d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir à Dieu. Et ceux dont on nous parle ici, manifestement, ont choisi de ne pas obéir à Dieu. Donc, quand on lit Jude, c'est un seul chapitre au verset 6 de Jude, il est dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, il est clair, il est évident que les anges ont une capacité de faire un choix, un libre arbitre. Ils sont doués d'un sens moral. Ils peuvent choisir d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu, à leur créateur. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que ce sont des créatures spirituelles qui sont au service de Dieu. Normalement, les anges, s'ils obéissent à Dieu, ils sont au service de Dieu. C'est Dieu qui les a créés, donc Dieu va leur donner un ministère, une mission, va leur donner des ordres et ils vont obéir à ces ordres. Et dans la manifestation du service qu'ils rendent à Dieu, ils peuvent se rendre visibles. Ils peuvent se rendre visibles. On a dit que ce sont des créatures invisibles. On a vu dans le cas de Élisée qui priait pour son serviteur et il a fallu que Dieu donne à son serviteur une capacité, on va dire, surhumaine pour qu'il soit en mesure de voir les anges. Sauf qu'il arrive parfois que Dieu permette à des anges de prendre des formes corporelles que nos yeux physiques peuvent voir et on voit des manifestations, plusieurs manifestations dans la Bible. Peut-être un des cas le plus célèbre, c'est la visite de l'ange Gabriel à Marie pour lui annoncer qu'elle devait être la mère du Seigneur. Donc, l'ange s'est présenté physiquement, a pris une forme physique et s'est présenté à Marie. Donc, on voit bien qu'ils peuvent prendre donc, cette forme physique. Dans le livre des psaumes, au psaume 91, le verset 11, « Car il a ordonné à ses anges de te garder, de te garder dans toutes tes voies. » Et Hébreux 1, 13 à 14 renchérit en disant, « Auquel de ces anges a-t-il jamais dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Donc, il est clair que les anges qui obéissent à Dieu sont au service de Dieu, ils peuvent se manifester et Dieu peut les envoyer pour exercer un ministère particulier en faveur des hommes. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Maintenant, le deuxième point que je vais aborder, c'est vraiment les différents types de créatures célestes dont parle la Bible. Donc, ils prennent différents noms dans la Bible. Et le premier, un des premiers types qui nous est présenté dans la Bible, et ce, très, très, très tôt dans les Écritures, dans Genèse, on parle des chérubins. Et voici une définition que donne le grand dictionnaire biblique des chérubins. Les chérubins apparaissent comme des gardiens de la sainteté de Dieu puisqu'ils protègent des sanctuaires. L'une des premières fois qu'on a fait mention des chérubins dans la parole de Dieu, c'est après le péché d'Adam et Ève. Donc, quand Adam et Ève ont péché et ont été et Dieu a dû à envoyer des chérubins pour garder l'arbre de la vie afin qu'ils ne, maintenant qu'ils avaient goûté aux fruits de la connaissance du bien et du mal, qu'ils ne puissent pas prendre, qu'ils ne puissent pas avoir accès. Donc, ce sont les chérubins que Dieu a envoyés. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu, des anges qui sont envoyés pour garder. Donc, ça, on le voit dans les Écritures, dans Genèse 3, le verset 24. « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc, c'est une des premières fois qu'on fait mention de ces créatures-là. Donc, d'autres types de créatures célestes dont parle la Bible, on parle des séraphins. Les séraphins, si on lit dans... Et là, on en a une description assez exhaustive. Vous vous rappelez de la vision que le prophète Ésaïe a eue et qui a littéralement permis à Ésaïe de voir toute la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et quand Ésaïe a eu ce privilège de voir Dieu sur son trône avec tout ce qui l'entourait, donc il nous a fait description des séraphins. Donc dans Ésaïe 6, à partir du verset 2 au verset 7, il est écrit, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. » Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Donc on voit bien encore, non seulement la description des séraphins, qui étaient des anges au service de Dieu, qui étaient dans sa présence, ils passaient leur temps à louer Dieu, à crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées ». Et mieux encore, on voit encore aussi un autre aspect qu'on a souligné tantôt, c'est qu'ils sont là pour servir les enfants de Dieu. Donc on voit un des séraphins s'envoler vers le prophète Ésaïe, le toucher avec une pierre ardente qu'il avait prise avec des pincettes en disant « Voici ce que Dieu veut faire de toi, il veut expier ton péché, il veut te rendre pur pour que tu puisses être en mesure de pouvoir observer toute cette gloire qui entourait le trône de Dieu. » Donc voilà un peu la description qu'on a dans la parole de Dieu des séraphins. On a aussi il y a d'autres aspects, d'autres types de créatures angéliques qui sont décrits dans la parole de Dieu. Un autre, c'est les êtres vivants. Donc, la parole de Dieu nous les rapporte sous le nom d'êtres vivants. Et quand on lit Ézéchiel, c'est un long passage, je vais le lire rapidement. Dans Ézéchiel 1, 5 à 14, il est écrit, « Au centre encore apparaissent quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme les reins polis. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes et les ailes de leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous les quatre, une face de lion à droite, et tous les quatre, une face de bœuf à gauche. Et tous les quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'est comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait autour des animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme de la foudre. Donc, voilà encore une description qui nous est faite. Je ne sais pas si vous essayez de vous faire une image de à quoi ressemblaient ces êtres. Généralement, quand on voit certains films de science-fiction, on peut voir des créatures assez un peu bizarres. On peut dire, ça c'est quoi? Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des animaux, c'est un ensemble de tout. Ici, l'auteur parle, ils avaient une face d'homme, ils avaient une face de lion, ils avaient une face d'aigle, ils avaient... En fait, je crois que l'auteur n'avait pas de mots pour expliquer et décrire ce qu'il voyait. Il voyait des choses, mais il était littéralement difficile dans le langage humain de décrire de façon absolue à quoi ressemblaient ces êtres. Donc, on voit vraiment cet aspect fascinant que peut avoir ces créatures célestes. Donc, voilà un peu quelques différents types de créatures célestes que la parole de Dieu nous rapporte. Et on voit la même description quasiment semblable dans Apocalypse où l'apôtre Jean aussi avait une vision et il décrit « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. » Donc, vous voyez, là, quand même, il y a une certaine ressemblance entre les deux textes qu'on a lus dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel et ce que l'apôtre Jean a comme vision. Donc, on se rend compte qu'il voyait à peu près les mêmes réalités. Chacun le décrit de façon assez similaire. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Donc ça, on vient rejoindre encore la description que le prophète Ésaïe donnait. Donc vous vous rappelez les séraphins qui avaient six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient le corps, deux dont ils se servaient pour voler. On voit encore la même ressemblance. Donc les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ça, c'est difficile à décrire, comment on est rempli des yeux autour et à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est vraiment des créatures assez fascinantes, assez spéciales. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il était, il est et il vit. » Et ça vient confirmer encore le fameux texte qu'on vient de lire tout à l'heure dans Ésaïe. Ésaïe, quand il a vu les séraphins, qu'est-ce que les séraphins disaient? Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Quand l'apôtre Jean a vu les anges autour du trône, il a vu exactement ces êtres vivants qui étaient en train de prononcer. Donc les anges, les créatures célestes de Dieu, les anges qui sont là, qui ont choisi d'obéir à Dieu, sont là pour l'adorer, le glorifier, le rendre toute la gloire. Donc ça, c'est vraiment clair dans la parole de Dieu, que les anges sont là au service de Dieu, ils sont là pour adorer Dieu, ils sont là pour accomplir un certain nombre de missions que Dieu leur confie. Le troisième point dans cette première partie, c'est la hiérarchie. On semble voir une certaine hiérarchie dans les anges. La Bible indique une certaine hiérarchie qui fait que les anges, on attribue un peu un rang et une dignité différente à certains anges. On voit clairement dans Daniel 10 au verset 13, « Le chef du royaume de Perse, donc c'est un récit que nous rapporte Daniel, m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Donc ça, c'est un récit qu'on voit où on voit l'archange, on le verra plus loin dans d'autres textes, l'archange Michel qui avait donc comme une certaine hiérarchie, une certaine dignité spécifique. Donc on le voit dans Apocalypse 12, le verset 7 à 8. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc on voit donc l'œuvre. Donc ici, les archanges semblent être des anges principaux et placés au-dessus d'autres anges. Donc c'est un peu la description qu'on voit dans Jude 1, verset 9. Donc il est écrit, « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Donc voici un indice dans la parole de Dieu qui semble dire que les anges n'ont pas le même rang, n'ont pas la même dignité, et que les archanges étaient comme un rang supérieur et qui avaient sous leur ordre d'autres anges et qui étaient tous au service de Dieu. Donc, le quatrième point de la première partie, c'est quelques caractéristiques qu'il est important que nous puissions garder à l'esprit parce que ça va définitivement conditionner notre perception que nous avons des anges. Donc, la parole de Dieu nous dit que les anges ne sont pas omniprésents. Les anges ne peuvent pas être partout. Dieu est omniprésent. Dieu peut être partout en tout temps. Mais les anges n'ont pas cette capacité. Et on voit des indices clairs dans la Bible qui nous indiquent que les anges ne sont pas omniprésents. On voit souvent que les anges se déplacent d'un endroit à un autre. S'ils étaient omniprésents, ils pouvaient être à tous les endroits en même temps. Mais la Bible parle de leur déplacement de façon constante. Donc, on voit dans Luc, et dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 26, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth. » Donc, on en a fait mention tout à l'heure. Et on voit aussi d'autres textes, comme celui de Daniel, qu'on a lu un extrait tout à l'heure. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef donc du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux anges, est venu. » Donc on voit qu'il est venu, il s'est déplacé, il est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant, donc l'autre ange qui avait été envoyé premièrement, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc il se déplace, les anges ne sont pas omniprésents, ils se déplacent. Donc, maintenant, on peut se demander, ils sont exactement combien, ces anges? La Bible dit qu'ils sont très nombreux. On n'a pas un chiffre à donner. Ils sont très nombreux. La Bible parle de myriades d'anges. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est élevé avec eux de Séhir, il resplendit de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu de ces saintes myriades. » Donc, on parlait du fait que les anges aussi sont appelés des saints. Il leur a de leur droite envoyé le feu de la loi. Le psaume 68, le verset 18 dit aussi, « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a pris des dons, il a pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. » Donc ça, c'est un autre texte. Donc ça nous donne un peu un aperçu assez général de ce que Dieu, de ce que Dieu fait avec ses créatures et des caractéristiques. Une autre caractéristique peut-être qu'il faut mentionner peut-être parce que Jésus en parle quelque part dans Matthieu 22, le verset 30, c'est que en répondant à une question, Jésus a dit que les anges ne se mariaient pas. Donc, on voit le texte dans Matthieu 22, verset 30. « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes et les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Donc, il semble faire une allusion. Donc, il y avait une question sur le mariage et à la résurrection. Donc, Jésus semble est clairement indiqué que les anges ne se marient pas. Donc, voilà un peu qu'est-ce qu'on peut dire. Un dernier élément sur les caractéristiques. On voit, et ça, on l'a dit clairement dès le début aujourd'hui, que les anges sont doués d'une grande puissance, d'une grande force, d'une grande intelligence. Et on voit dans le psaume 103, le verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous tous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc, on voit, et un autre psaume dit clairement que les anges ont été créés de peu inférieurs à Dieu. Donc tandis que les anges, le 2 Pierre 2, verset 11, « Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Donc, on voit vraiment clairement qu'une des caractéristiques des anges, c'est qu'ils sont vraiment... ils ont une force et une puissance indescriptible, du moins d'autant supérieure à, la force et à la puissance des êtres humains. Donc voilà, ça c'était un peu pour couvrir la première partie, qui sont les anges. Donc on survole rapidement ce point. Donc la deuxième partie que j'aimerais couvrir, c'est la place et le rôle des anges dans le plan de Dieu. Pourquoi Dieu a créé les anges? À quoi ils servent? Donc, c'est quoi leur place dans le plan de Dieu? Donc, j'aimerais couvrir deux points. Les anges qui montrent la grandeur de l'amour et du plan de Dieu. Donc, c'est une des raisons pour laquelle Dieu a créé les anges. Et aussi, cela nous permet de voir quelle devrait être notre relation avec les anges, comme deuxième point. Donc, les anges montrent la grandeur et l'amour du plan de Dieu pour nous. Donc, on voit qu'un des rôles, c'est que les racheteurs régneront avec Dieu et siégeront pour juger les anges. Et je vais m'expliquer un peu plus sur ce point, parce que cela va nous permettre de comprendre quelle doit être notre relation avec les anges. Et regardons ensemble Apocalypse 5, plutôt le verset 9. Donc là, on lit « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 3, il est écrit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. » Donc ça, c'est une réponse de l'apôtre Paul par rapport à l'attitude des Corinthiens. Et l'apôtre Paul fait allusion ici du fait que si Dieu nous donne ce privilège d'être un jour, de siéger avec lui un jour, comme nous le dit le verset qu'on a lu plus tôt dans Apocalypse, il dit que Dieu a sauvé les gens de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, et ils vont siéger avec lui, ils vont régner avec lui. Et ce règne-là semble même s'étendre sur les créatures, ces créatures célestes que sont les anges et que nous jugerons ces anges. Donc, il est évident que bien que les anges, on l'a dit tout à l'heure, semblent être comme supérieurs aux hommes en force et en puissance. Il y a quelque chose que les anges n'ont pas. Ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. La Bible, il n'y a aucune référence biblique qui nous dit que les anges, même s'ils sont des créatures assez fascinantes de Dieu, ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Seul l'homme semble avoir ce privilège. Et on semble voir cette spécificité, cette particularité dans le rôle que Dieu confie aux hommes, qu'il a racheté par le sacrifice de son Fils. Ils vont régner avec lui, les hommes vont régner avec lui, et ils auront même le privilège, s'il y a lieu, de juger les anges. Donc ça, c'est un élément important pour nous à comprendre dans le plan de Dieu. Donc, on peut pousser le raisonnement plus loin avec le deuxième point, c'est qu'on voit l'émerveillement des anges au témoignage de l'amour de Christ pour les hommes. On voit que les anges sont étonnés de voir le Fils de Dieu, Dieu le Fils, prendre cette forme humaine et descendre pour sauver les hommes. Ils sont étonnés, ils sont fascinés, émerveillés par la démonstration de l'amour de Dieu. C'est quelque chose d'assez fascinant pour les anges. On voit l'apôtre Pierre le dire dans 1 Pierre 1, le verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses que vous ont été annoncées, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur écart. On dirait que toute la grâce de Dieu manifestée envers les hommes, les anges sont contemplatifs devant ces choses. Ils se demandent, waouh, comment se fait-il? Quel est ce grand amour? Un plan tellement merveilleux en faveur de ces créatures. Parce que nous aussi, nous sommes des créatures au même titre que les anges. Même si nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, les anges sont fascinés, émerveillés par le plan merveilleux que Dieu a pour les hommes. Et on voit ici l'apôtre Pierre qui dit que les anges voudraient, c'est un mystère pour eux, ils voudraient comprendre quelle est l'importance que l'homme a au point que le Seigneur, le Dieu souverain, le Dieu éternel, accepte de prendre la forme humaine et venir nous sauver. Ça reste quelque chose qui fascine les créatures célestes, les anges. Donc voilà ce qu'on peut dire aussi sur notre relation que nous devons avoir avec les anges. Il est clair que nous devions être conscients de leur présence et de leur ministère que Dieu leur confie en notre faveur. On doit être conscient de ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je vous ai lu le texte de Deux Rois. Le serviteur d'Élisée n'était pas conscient de ça. Et toute sa peur, quand il a vu les chars qui encerclaient la ville, il a dit « on est perdu, c'est fini ». On ne peut plus s'échapper. Si au moins on l'avait vu la nuit, on aurait pu partir clandestinement de nuit. Mais maintenant, il fait jour et on est encerclé. Alors que son maître, Élisée, était assez serein. Et il ne comprenait pas pourquoi il est serein. Et Élisée a prié le Seigneur en disant, « Ouvre-lui ses yeux pour qu'il voie. » Nous n'avons pas besoin que Dieu ouvre nos yeux de façon miraculeuse comme il a fait pour le serviteur d'Élisée pour qu'il voie. On doit être conscient parce que nous, on a une révélation plus grande que celle que le serviteur d'Élisée avait parce que nous, on a la révélation de la parole de Dieu qui nous a été transmise par les Saintes Écritures. Et on sait que la parole de Dieu dit vrai. Vous vous rappelez de notre leçon 2, on a parcouru, survolé la doctrine de la parole de Dieu qui dit la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu nous rapporte est la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes entourés de ces créatures de Dieu que Dieu a mis à son service et pour accomplir un ministère particulier en faveur des hommes. Nous devions être conscients de leur présence, que nous ayons l'aptitude de voir physiquement ou pas, cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc, nous devions être conscients et on voit l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui va même jusqu'à dire « N'oubliez pas l'hospitalité quand en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont venus chez vous. Ce texte ne fait pas forcément une allusion tout simplement en disant qu'on a accueilli quelqu'un chez nous, une vraie personne chez nous, et qu'en l'accueillant, on l'a accueilli comme un ange. Ça va vraiment au-delà de ça. Il y a des personnes qui ont reçu, et on voit si vous retournez dans l'histoire biblique, Abraham qui reçoit des gens chez lui et qui ne s'aperçoit pas que c'est en réalité, ce n'était pas des êtres humains qu'il a reçus, même si ceux qu'il a reçus avaient le corps d'êtres humains, ce sont des anges qui avaient pris cette forme. Donc, c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit clairement, n'oubliez pas l'hospitalité, parce que quand vous recevez quelqu'un, pour vous, ce n'est qu'une personne parmi tant d'autres, mais peut-être que c'est aussi la manifestation de Dieu au travers de l'envoi d'un de ses serviteurs, d'un de ses anges. Donc, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici. Le deuxième point, dans notre relation, les anges ne détiennent aucune nouvelle révélation. Et ça, malheureusement, si vous êtes abonné à Internet, vous pouvez entendre des histoires où des gens pensent avoir de nouvelles révélations parce que ils ont eu la visite ou une vision extraordinaire. Ils ont rencontré un ange de Dieu et cet ange de Dieu leur a envoyé un message qu'ils doivent adresser à l'Église de Dieu. Et pourtant, les Saintes Écritures disent clairement, Galates 1, le verset 8, et c'est l'apôtre Paul qui parlait aux Galates, parce que justement, certaines personnes amenaient de nouvelles doctrines sous prétexte que sont de nouvelles révélations qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été connues précédemment, et c'est quelque chose d'assez nouveau qui vient d'apparaître. Donc l'apôtre dit clairement, quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc c'est clair que c'est ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à notre relation que nous devions avoir avec les anges. Un autre point, c'est qu'ils ne doivent, on ne doit pas rentrer, on ne doit pas chercher à rentrer en contact avec des anges ou leur adresser des prières, comme on le voit malheureusement dans certaines communautés, ou leur présenter un culte quelconque. Et Colossiens 2, verset 18 nous dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et on voit même une illustration dans Apocalypse où Jean avait vu un ange lui apparaître et il est tombé à ses pieds. « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service » et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc c'est clair qu'on n'a aucune, il n'y a aucun indice dans la Bible qui nous pousserait à rentrer en contact avec, à désirer rentrer en contact avec les anges. À moins que Dieu les envoie pour accomplir un ministère en notre faveur, c'est lui qui décide. Mais nous ne pouvons pas le faire, leur adresser une prière ou les adorer, leur offrir un culte quelconque. Et le dernier point, de cette deuxième partie que j'aimerais souligner, nous devons faire preuve de discernement. Ce n'est pas parce qu'on a parlé des anges, on a parlé de ce ministère que les anges peuvent accomplir en faveur des hommes que tout ce qui passe et qui aurait l'aspect d'un ange, on doit accepter que c'est un serviteur de Dieu parce qu'il y a des anges qui ne sont pas au service de Dieu. Cela me permet d'aborder la troisième partie, les démons, qui sont-ils? L'origine des démons est Satan comme chef des démons. On voit clairement que ce sont des anges de Dieu qui sont rentrés en rébellion avec le Créateur. Et on l'a vu clairement dans les textes qu'on a lus dans Jude, chapitre 1, verset 6, et aussi dans 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché et qui les a précipités dans les abîmes éternels et réservés pour le jugement. Donc, c'est deux textes qu'on a lus tantôt et qui disent clairement que les démons, ce sont des anges, mais qui ont choisi de désobéir à Dieu plutôt que de lui obéir. Et on voit une description qui fait probablement référence à la chute de Satan. Et dans Ésaïe 14, il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fossée. » Donc, on voit clairement une référence ici que le prophète fait et qui semble faire référence probablement à la chute de Satan. Satan est le chef de ces anges qui ont choisi de désobéir. Satan signifie littéralement « adversaire ». Et on voit encore une image que je vous donnais tout à l'heure dans le livre de Job. On dit que, or les fils de Dieu, les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. 1 Chronique 21, 1 nous dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. On voit que c'est vraiment l'adversaire de Dieu. Tout ce que Dieu fait, Satan doit trouver quelque chose par la ruse, par toutes sortes de combines pour essayer de s'opposer à Dieu. C'est pourquoi Satan veut signifier littéralement l'adversaire de Dieu. Et dans Zacharie 3, le verset 1, on dit, « Il me fit voir Jésoué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Donc Satan, il ne rate pas une occasion. Et nous devions être conscients aussi de cette réalité. Et Jésus lui dit, donc dans Matthieu 4, verset 10, parlant à Satan, « Satan, or, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul après la tentation que Jésus a eue dans le désert après les 40 jours de jeûne au début de son ministère. » Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc cela nous montre un peu une image du sort qui est réservé à Satan et à ses démons et de la puissance que Dieu, ou du privilège que Dieu donne à ses serviteurs, à ses enfants, de pouvoir s'opposer à cet adversaire parce que lui s'oppose à Dieu et nous, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à être toujours dans un combat avec Satan et ses démons. Satan est présenté dans la parole de Dieu sous d'autres noms. On voit dans Matthieu 4, 1 que Satan est appelé le diable et aussi la référence est faite dans Apocalypse 12, le verset 9. Et plus loin, dans Genèse 3, 4, on parle de Satan comme le serpent. Donc, on utilise l'image du serpent donc pour désigner Satan. Et 2 Corinthiens 11, 3 aussi. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et on le voit dans Apocalypse aussi 20, le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc on voit là des indices aussi qui nous amènent aussi vers la fin de ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Donc Belzébul aussi, c'est une autre terminologie qui est utilisée pour désigner Satan. Donc on voit aussi l'expression dans les épîtres, Satan qui est désigné comme le prince de la puissance de l'air dans Apocalypse 2:2. Donc, la dernière partie que j'aimerais aborder, c'est les activités de Satan et des démons. Et ça, je vous dirais que ça prendra une année pour en parler. Parce qu'on est entouré, malheureusement, de cette réalité. Elle semble moins évidente en Occident parce qu'elle a pris peut-être des formes pseudo-scientifiques, un peu anodines. Et elle semble peut-être plus visible dans d'autres coins de la planète, du monde, mais il n'en demeure pas moins que sous tous les cieux, Satan et ses démons sont à l'œuvre. Satan est à l'origine du péché, c'est clairement dit dans la Bible que Satan est à l'origine du péché, et on le voit dans la tentation de Adam et Ève, on voit toute la ruse. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Et tout de suite, le doute est semé dans le cœur de Ève. Elle se dit, peut-être que... Et on voit les conséquences de cette attitude-là dans la suite. Et on voit qu'il est le meurtrier, le père du mensonge. C'est exactement l'expression que Jésus utilise. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, je crois que les paroles, les déclarations de Jésus ne peuvent pas être plus claires que ça. Les démons s'opposent à l'œuvre divine et cherchent par tous les moyens à la détruire, à détruire l'œuvre de Dieu. Satan et ses démons utilisent tous les moyens. Et quand on dit tous les moyens, c'est vraiment tous les moyens. Donc, ils utilisent le mensonge, la séduction, la ruse, le meurtre, pour détourner les élus de Dieu. Donc, on le voit dans Jean 8, 44. Il est écrit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Donc, c'est clair que le diable et ses démons vont essayer de nous pousser comme élus de Dieu, à désobéir à Dieu et à et exactement à être à son service plutôt qu'être au service de Dieu. Donc, on voit aussi dans Apocalypse 12, 9, donc d'autres références. Et la, cette référence n'est pas anodine. Donc, Psaume 106, le verset est 37, « Ils sacrifièrent leurs fils et leurs fils aux idoles. » Donc, vous voyez, Satan va jusqu'au meurtre, prendre, faire des sacrifices humains ici, littéralement, qu'on voit dans, dans la parole de Dieu. Donc, Satan va donc, demander des sacrifices humains pour son plaisir. Donc, toujours dans l'idée de pousser le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ou les hommes à désobéir à Dieu parce qu'il sait que ce n'est pas le plan de Dieu ainsi. Par contre, la bonne nouvelle, et j'aimerais terminer là-dessus, c'est que le pouvoir de Satan et de ses démons est limité. Le pouvoir de Satan et de ses démons est limité. On le voit clairement dans l'histoire de Job. Donc, oui, Dieu a permis à Satan de s'en prendre aux possessions de Job, et même de s'en prendre physiquement à lui, mais il lui a toujours mis, à chaque occasion, il lui a toujours mis une limite. Donc, il y a une limite. Donc, et on doit garder cela à l'esprit. Et cela nous amène à voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas superflu de parler de Satan. Et peut-être que nous aurons l'occasion, dans une autre série de cours, de parler vraiment de notre attitude en tant que chrétien, ce que nous devions faire comme chrétiens pour être en mesure de lutter contre toutes les actions mauvaises et qui nous entourent et qui viennent de Satan et de ses démons. Et donc, j'aimerais finir avec le dernier point, le chrétien, comment le chrétien doit lutter contre Satan et ses démons. Le chrétien doit prendre conscience qu'il est engagé dans un combat spirituel. Lisez Éphésiens 6, le verset 10 à 12, on dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les gens qui nous entourent, mais c'est contre les principautés et c'est contre les puissances des ténèbres, donc représentées ici par Satan et ses démons. Les chrétiens doivent se garder loin du péché. C'est le meilleur moyen, c'est de ne pas se laisser corrompre par le péché, et cela passe généralement par la méditation de la parole de Dieu, par une vie de prière, la méditation de la parole de Dieu. Et enfin, si cela est nécessaire, le chrétien doit résister au diable qui se manifeste. Donc, toute manifestation physique du diable, il peut arriver que le diable se fasse une manifestation physique. On l'a vu pendant le ministère de Jésus. Donc, le chrétien doit pouvoir prendre autorité à ce niveau. Et cela n'est souvent pas possible quand on vit seul. Il faut vraiment une vie en communauté. Donc, l'Église, généralement, c'est le meilleur moyen. Donc, le fait que nous sommes attachés à une Église qui enseigne et pratique la parole de Dieu nous garde des pièges de l'ennemi. Donc, cela est important et on doit prendre autorité sur toute manifestation démoniaque, mais en restant centré sur la parole de Dieu. Donc voilà un peu survolé. Donc comme je vous disais, ça prendrait 3, 4, 5 leçons au minimum pour essayer de couvrir en profondeur chaque aspect. Mais nous espérons qu'au travers de la leçon d'aujourd'hui, vous comprenez bien quelle est notre position comme enfant de Dieu, une position privilégiée, créature à l'image de Dieu. Il existe des créatures célestes, qui ne sont pas à l'image de Dieu, mais qui sont au service de Dieu. Certains ont choisi de rester au service de Dieu, qu'on appelle les anges. D'autres ont choisi de désobéir à Dieu, qu'on appelle les démons. À leur tête, Satan, il se manifeste, ses puissances se manifestent dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas superflu, même si on ne les voit pas avec des cornes habillées en rouge. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à l'œuvre. Donc, à nous, comme chrétiens, de rester attaché à la parole de Dieu, rester attaché à notre Église, à l'assemblée de nos frères et sœurs, et de pouvoir résister au diable dans toutes ses œuvres, si ces œuvres-là se manifestent, parce que nous sommes appelés, comme le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable, nous sommes appelés à marcher à sa suite. Donc, bien-aimés, voilà un peu le survol du cours d'aujourd'hui. J'espère que cela va vous pousser, à partir de vos notes, à aller lire davantage autour des textes qui sont dans les notes pour que nous puissions continuer par nous instruire ensemble à cet effet. Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce matin pour le privilège que nous avons d'être ensemble et de pouvoir ensemble méditer ta parole. Seigneur, il est évident que nous ne pouvons pas voir toutes les choses qui nous entourent. Mais tu nous dis dans ta parole que nous sommes entourés de réalités spirituelles qui dépassent de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Et parmi ces réalités spirituelles, il y a tes saints anges qui sont à ton service et que tu envoies en permanence exercer un ministère en notre faveur. Mais il y a aussi Satan et ses démons qui ne ratent pas une seule occasion pour nous éloigner du plan divin que tu as préparé, ceux d'avant le commencement des temps, pour tes élus. Mais Seigneur, nous sommes convaincus ce matin, par ta grâce, que tu nous as donné comme enfants de Dieu, nés de nouveau, tu nous as donné l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Tu as dit que tu nous donnes cette autorité, nous pouvons marcher contre toutes ces puissances et les vaincre, pas parce que nous avons une puissance en nous, mais parce que la puissance vient de toi. Merci Seigneur pour ta grâce et conduis-nous jour après jour en sorte que nous soyons victorieux de toutes les ruses et de tous les mensonges de l'ennemi. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.